Doucement, elle s'avance sous un ciel tranquille et pur. Et soudain, le vent se lève, chassant un nuage noir. Et les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Mais les vagues qu'il soulève font trembler, car c'est le soir. Grande alors est l'heure des tresses, des voyages éperdus. Grande est aussi leur faiblesse, leur foi ne les soutient plus. Mais il en est un qui veille sur eux tous bien qu'endormis. Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami? Faudra-t-il qu'on l'éveille? N'est-il plus leur tendre ami? Tu le vois, nous périssons. Ton miracle était possible. Sauve-nous, nous t'en prions. De tôt, il s'approche, puis il dit au vent, tais-toi.
Cinq ans, Michou et moi, nous avons fondé la communauté du Sanctuary. 35 ans. Et aujourd'hui, on est loin des modestes débuts. Il faut dire que la première communauté, nous avions deux pièces, cuisine et une salle à manger, qui faisait 3/3. Nous n'avions pas de lieu de culte. Et puis voilà, nous étions quoi ? Il y avait Isabelle Lemot et Dominique. C'est une grande communauté. Ils sont toujours là. Et nous avions très peu d'expérience. Enfin, quand même, l'expérience que nous avions, c'était une bonne expérience, puisque nous avions passé 7 ans déjà avec Teen Challenge de David Wilkerson. Et Manu est là ce matin avec nous. Il va venir un de ces jours vous parler, vous expliquer tout ça et vous faire rire à mon sujet. Des heures glorieuses de Teen Challenge, France, à Paris, au boulevard Saint-Jacques, sur les quais de la Seine. On s'est connus, on était jeunes et beaux. On a bien changé. Donc voilà, aujourd'hui, je parle comme un témoin de ce passé. Et si j'en parle, c'est pas juste, voilà, c'est la mode de parler du bon vieux temps des années 60. C'est la mode, c'est vrai. Mais enfin, c'est surtout parce que je suis conduit à vous parler de l'avenir. De l'avenir. Mes frères et sœurs, on est encore en train d'évoluer, on n'a pas arrêté, on s'est pas stoppé là tout d'un coup, on est toujours en train de grandir, mais il faut pas oublier qu'on grandit en territoire ennemi. On n'est pas chez nous ici. Sur cette terre, le prince de cette terre, c'est pas Jésus, c'est Satan. Voilà qui ferait plaisir à Henri Lindorman. Le prince de ce monde, c'est pas Jésus. Il est venu racheter les siens pour les enlever de là. Et on est là, en train d'évoluer en terre ennemie. Bon, les jeunes de la communauté s'en rendent sans doute pas tout à fait encore compte. Il y a juste ceux qui commencent à sortir un peu à l'extérieur qui se rendent compte que c'est pas tout à fait à l'extérieur comme dans les 4 hectares du sanctuaire, hein. Oui ou non, les jeunes? C'est pas tout à fait pareil, hein. Mais quand ils seront plus mûrs spirituellement, ils comprendront comment l'adversaire a infiltré le monde qui nous entoure. Il est dans les familles, dans les foyers, dans les divertissements, dans les médias, dans le langage, dans tout ce qui nous entoure. Il est partout, il a tout infesté. Et dans la plupart des cas, sa présence passe totalement inaperçue. Alors, voilà comment le Seigneur me conduit à vous parler ce matin. Je vais vous parler de ce qui a le plus de valeur. Je vais vous parler de ce qui est le plus désirable. Et pour ça, je prends un texte dans les Proverbes, au chapitre 4, au verset 7. On le lire, Proverbes 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quand nous étions au tout début de notre vie communautaire, Dieu a ouvert pour nous un coin du ciel et nous a permis d'aller passer un mois en tête à tête avec T.L. Osborne. Michou et moi, nous étions là dans leur bureau et on parlait avec eux 8 heures par jour. On mangeait avec eux. Ils nous avaient réservé une maison juste à côté d'eux. Donc le soir, on était juste à proximité et c'était extraordinaire. Et une des phrases qui nous a le plus marqué de tout ce qu'il nous a dit, il nous a dit énormément de choses qui ont bouleversé notre vie, mais une des phrases qui nous a marqué, c'était « Qu'est-ce que vous avez dans vos mains ?» C'est à partir de ça que vous allez pouvoir faire. Qu'est-ce que vous avez ? Et là, dans le proverbe, il est dit « Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Avec ce que tu possèdes, avec ce que tu as. Qu'est-ce que vous avez? Il nous avait dit, frère Osborne, faites une liste, mettez par écrit tout ce que vous avez, même votre chien, mettez-le dedans. Tout ce que vous avez, mettez-le dedans. Écrivez ce que vous avez, ce que vous possédez. Et à partir de ça, avec ça, construisez. Alors, j'ai pas de temps à perdre. Je voudrais que vous écoutiez bien ce que j'ai à vous dire ce matin, c'est important. Écoutez ça comme si c'était mon dernier message. Le jour où j'ai décidé de suivre Jésus, pas seulement pour recevoir le pardon de mes péchés, ça c'était le 1er juin 1968. Le jour où j'ai décidé de suivre Jésus, pas seulement pour être au bénéfice de sa protection ou de sa guidance. Le jour où j'ai décidé de suivre Jésus, pas seulement pour recevoir la guérison de mon corps malade ou pour pouvoir avoir l'abondance matérielle ou pour pouvoir avoir la femme de ma vie. Vous voyez, pas seulement pour recevoir de lui, mais le jour où j'ai décidé de suivre Jésus pour m'occuper de ses affaires, ça, pour entrer à son service, ce jour-là, je m'en souviens très bien. C'était un dimanche matin de juillet 69 à Metz sous un chapiteau. C'est par une prédication du pasteur Clément Le Cossec que le Seigneur parlait ce jour-là. Sous ce chapiteau, au milieu de milliers de gitans, je me rappelle toujours, je venais de me payer un joli petit blouson bleu. Je m'en souviens comme c'était hier. Et le Cossec qui disait, et il répétait, c'était un leitmotiv tout au long de son message, quelle sorte d'homme veux-tu être? Quelle sorte d'homme veux-tu être? Quelle somme? Alors, il disait sans arrêt, il revenait là-dessus, quel genre d'homme, quelle sorte d'homme veux-tu être? Et ce matin-là, J'ai décidé que je serais un porteur de bonnes nouvelles. Voilà ce que j'ai décidé. Un enseignant de la bonne nouvelle que nous annonce Jésus-Christ et que nous trouvons dans les Écritures. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'être un enseignant? Eh bien, c'est parce qu'un enseignant, il s'ennuie jamais. Un enseignant s'ennuie jamais parce qu'un enseignant, il apprend toujours. Quelqu'un qui apprend toujours, c'est quelqu'un qui se renouvelle constamment, et c'est excitant. Je suis pas en train de faire toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Apprendre, c'est un des buts fondamentaux dans la vie d'un homme qui veut être en marche, c'est-à-dire qui veut progresser, qui veut aller plus loin. Apprendre. Il faut d'abord apprendre à apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne savent pas apprendre parce qu'ils ne savent pas écouter. Parce que pendant qu'on leur apprend, ils pensent à autre chose. Ils pensent, ah oui, mais moi, j'ai pas ça. À sa place, j'aurais pas dit ça comme ça. Ou ceci, ou cela. Et puis alors, ils apprennent jamais rien parce que dans leur tête, il y a un fourbi terrible qui ne se tait jamais, un monologue qui se tait jamais et qui parasite tout. Et ils peuvent pas apprendre. Alors, il faut apprendre à apprendre, se calmer et apprendre. Mes frères et sœurs, dans l'église laodicéenne, c'est-à-dire dans l'église de notre temps, on apprend continuellement ce qui concerne le don du Saint-Esprit. Je me rappelle, je m'étais abonné à une revue des Assemblées de Dieu qui s'appelait Viens et Vois. C'est une dénomination chrétienne qui prétend prêcher le plein évangile. Et dans tous les numéros, il y avait comment recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, comment manifester le fruit de l'Esprit, comment recevoir les dons spirituels, le numéro d'après rebelote. Enfin, je me suis resté abonné pendant 3 ans, et comme c'était toujours pareil, je me suis désabonné parce que, on n'en sortait pas. L'enseignement, mes frères et sœurs, il a ses limites. Mais dans l'Église restaurée, je parle de l'Église qui est sortie de l'âge de Laodicée, de l'Église qui a entendu Jésus qui frappe à la porte, et de ces gens qui sont sortis de là pour suivre Jésus dans la vraie vie, eh bien, dans l'Église restaurée, nous pouvons, je dirais même que nous devons faire le reste du chemin tout seul. C'est-à-dire, l'enseignement est nécessaire, mais le reste du chemin, nous le faisons tout seul pour découvrir par nous-mêmes comment le Saint-Esprit peut être une influence directrice, comment le Saint-Esprit peut être une influence protectrice, comment le Saint-Esprit nous parle, reconnaître sa voix, ça s'apprend. C'est un processus. On apprend cela, c'est pas quelque chose qui se greffe à nous tout d'un coup, puis voilà, on comprend. Chaque fois que c'est le Saint-Esprit qui parle, on sait que c'est le Saint-Esprit, et on va pas le mélanger avec notre petite voix, notre petite conscience, ou même des fois la voix de mauvais esprit séducteur. Non, on n'apprend pas d'un coup, c'est un processus, et c'est la même chose pour tout le monde. Il faut toute une vie terrestre pour découvrir comment le Saint-Esprit opère dans notre propre vie. Alors vous découragez pas, il faut toute une vie, c'est-à-dire qu'on marche de progrès en progrès, on n'a jamais fini, mais on fait quand même des progrès. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on a découvert que c'est un processus, et quand on est entré dans ce processus et qu'on avance volontairement dans ce processus et qu'on s'efforce de ne pas s'écarter de ce processus, mais d'être honnête avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les autres, avec les Écritures, à ce moment-là, alors on peut vivre en territoire ennemi et hostile sans être trompé ni être détruit. Voilà. C'est clair ? Mais ça vient de nous aussi. C'est nous qui devons faire cette marche seuls. Quand je dis seul, Jésus est avec nous pour nous aider. Mais il nous laisse, il lâche les rênes pour nous laisser aller comme ça avec ce que nous apprenons jour après jour. Mes frères et sœurs, aucun membre de la vraie Église restaurée de Jésus-Christ, c'est-à-dire vous, et pas seulement vous, mais bien d'autres, aucun membre de la vraie Église restaurée de Jésus-Christ ne fera jamais d'erreur grave sans être au préalable averti par les murmures du Saint-Esprit. Jamais. Vous savez, j'écoute souvent des confessions de péché. Et il y a une phrase qui revient toujours quand les gens me confessent leur péché. Ils disent, je savais que j'aurais pas dû faire ça. Je savais que j'aurais pas dû faire ce choix. Je sentais que c'était pas juste. Ou alors, je savais que j'aurais dû faire ceci, mais j'en ai pas eu le courage. Enfin, voyez, on sent, on a une impression, et ces impressions sont des tentatives du Saint-Esprit pour nous orienter vers le bien ou pour nous éloigner d'un danger. Mais encore faut-il faire le calme pour pouvoir l'entendre, parce que le Saint-Esprit, il n'est pas pentecôtiste, il ne hurle pas, il chuchote. Il chuchote. Regardez dans les Écritures. Il n'est pas dans le vent, il n'est pas dans la tempête, il n'est pas dans l'orage. C'est un murmure doux et léger. Alors, beaucoup parlent de la communion avec le Saint-Esprit. C'est bien. Communion avec le Saint-Esprit, c'est la communication avec le Saint-Esprit. On ne peut pas dire qu'on a une communion avec quelqu'un si on ne communique pas. Je dis que pour que les canaux de la communication restent ouverts, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Parce que ça attriste le Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit s'attriste, ben il se retire. Il vous gronde pas, il est pas, il va pas hurler dans vos oreilles, il va pas, non, il se retire. Comme une colombe, il n'a pas de fiel, il n'a pas d'amertume, simplement il est attristé, alors il s'en va. Et puis vous vous en rendez même pas compte qu'il s'en va. Puis vous pensez qu'il est là, puis qu'il vous inspire, puis c'est pas vrai. Alors c'est très embêtant. Alors premièrement, pour être certain que le canal est toujours ouvert, que vous êtes bien connecté, vous savez, au château avec mon téléphone, il y a un endroit, c'est dans le salon, eh ben j'ai pas la connexion avec Orange. Il faut que j'aille ailleurs pour avoir la connexion. Eh bien, il y a aussi des endroits spirituellement et même matériellement où il ne faut pas aller, parce que sinon, ben, on ne peut pas être en communication directe avec la voix du Saint-Esprit. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Par exemple, vous ne devez pas mentir, tricher, voler, vous enfler d'orgueil, toutes ces choses-là. Et si vous faites ces choses, vous ne pouvez pas maintenir les canaux ouverts. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des endroits où l'ambiance freine la communion spirituelle. Il y a des endroits où vous n'aurez plus le réseau. Vous n'aurez plus la communication, vous n'aurez plus la communion avec le Saint-Esprit parce que ça sera coupé. Mais c'est vous, vous n'avez pas besoin d'aller dans ces endroits-là. Faut pas. Pourquoi ? Vous devez apprendre à rechercher le pouvoir, et je vais vous parler de quel pouvoir, et vous devez apprendre à chercher la direction qui vous est accessible. Il y a des directions et des pouvoirs qui ne vous sont pas accessibles parce que nous ne sommes pas tous les mêmes, avec tous le même appel, tous les mêmes dons, tous la même destinée. Mais vous devez apprendre à savoir, c'est un petit peu comme sur un truc de radio, vous savez, vous cherchez le bon canal. Et puis ensuite, quand vous avez trouvé le bon canal, vous devez suivre cette voie sainte et vous devez la suivre, quelles que soient les conséquences. Mais vous êtes rempli d'assurance. Vous savez que vous êtes en communion avec Dieu. Il y a des choses que vous ne faites pas, il y a des endroits où vous n'allez pas. Vous sondez les Écritures, vous vous mettez devant Dieu tous les jours. Premièrement, en fait, pour avoir cette grande assurance, eh bien, c'est d'entamer le dialogue soi-même, la prière. Mettez la prière sur votre liste des choses que vous devez faire, parce que c'est bien gentil de dire ce qu'il ne faut pas faire, mais il y a des choses que vous devez faire. Mettez la prière dans la liste des choses que vous devez faire. Vous pouvez, si vous avez le contact, si vous n'avez pas rompu vous-même le contact, le Saint-Esprit ne va pas rompre le contact. Il est toujours présent. J'entends des fois dans des réunions des gens qui prient pour que le Saint-Esprit vienne. Oh, viens Saint-Esprit, mais il est toujours là. Ils sont en train de lui demander de venir, mais il est toujours là, parce qu'il est omniprésent. Les mauvais esprits ne sont pas omniprésents, c'est pourquoi les diaboliques, les satanistes invoquent les esprits pour qu'ils viennent. Mais nous n'avons pas à prier le Saint-Esprit de venir, il est omniprésent, il est toujours là partout. Hein? Donc, mais maintenant, si vous n'avez pas rompu le contact, si vous n'avez pas perdu le contact à cause d'un péché ou à cause de vous avez compris ce que je veux dire, si vous avez le contact, vous pouvez toujours avoir une ligne de communication directe avec Jésus, toujours. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Et si vous avez perdu le contact, parce que vous vous êtes éloigné de la sainteté, eh bien, n'attendez pas qu'il vous appelle, appelez-le vous-même. Ne dites pas, oh ben, quand le Seigneur m'appellera une autre fois, peut-être. Non, non. Faites le numéro vous-même. Invoquez le nom de Jésus sur votre vie. Demandez-lui, criez à lui. Et ne laissez pas l'adversaire vous convaincre qu'il n'y a personne qui écoute à l'autre bout. Le diable va toujours vous dire, mais tu pries dans le vide. Ta prière, elle monte jusqu'au plafond, ça va pas plus loin, il n'y a pas de Dieu, il t'entend pas. Ou alors il est occupé, il a d'autres choses à faire plus importantes. Ça, c'est le diable qui vous dit ça. N'écoutez pas ce qu'il vous dit, c'est des bêtises. Ne soyez pas bêtes au point de croire des bêtises. Vos prières sont toujours entendues, toujours. Vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours la présence de Dieu avec vous, toujours. Et aussi celle des anges. Alors, la deuxième chose à faire, La deuxième chose à inscrire sur la liste des choses que vous devez faire, c'est prendre soin du temple de Dieu. Ça ne veut pas dire venir mettre un coup de balai dans la chapelle, c'est pas ça. Prendre soin du temple de Dieu. On va lire 1 Corinthiens 3:16. Vous allez comprendre. 1 Corinthiens 3:16, 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est vous le temple de Dieu. C'est pas la cathédrale de Chartres ni la chapelle du château Sanctuary. Le temple de Dieu, c'est vous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Il y a 1000 manières de détruire le temple de Dieu. 1000 manières. En ne lui donnant pas le repos nécessaire, par exemple. Eh ben, vous l'abîmez. En ne lui donnant pas l'hygiène nécessaire, ben, vous l'abîmez. En ne lui donnant pas une bonne nourriture, eh ben, vous l'abîmez. Vous êtes en train de travailler à sa destruction. Ne détruisez pas le temple de Dieu. N'abîmez pas le temple de Dieu. Sinon, il vous détruira. Dieu fait cette promesse à ceux qui prennent soin de leur corps, c'est-à-dire du temple de Dieu. Il dit, vous trouverez de la sagesse et une grande connaissance, plus grande que la sagesse de ceux qui se reposent sur la sagesse des terrestres. Parce qu'il y a une sagesse sur cette terre. On ne peut pas le nier. Mais il y en a une plus grande, celle de notre Créateur, que les terrestres ignorent. Mais vous, elle vous sera révélée, elle vous consolera, elle vous consolidera, elle vous mènera au but pour lequel vous avez été fait. Et l'autre promesse, c'est vous marcherez, c'est-à-dire vous progresserez sans vous fatiguer et sans faiblir. Le Seigneur fait la promesse que l'ange destructeur passera à côté de vous et ne vous frappera pas. Mais si vous vous amusez à détruire le temple de Dieu, si vous vous amusez à ne pas le respecter, à lui faire du mal, eh bien, quand l'ange destructeur passe, ben, il va pas vous rater. Il va dire, ah, il y a un chantier de destruction. C'est mon boulot aussi. Et il va venir et il va tout casser là-dedans. Et alors après, ben, on s'étonne. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est que si vous ne prenez pas soin de votre corps, il y a quelque chose dans votre psychisme qui se déclenche et qui va attaquer les cellules de votre corps et créer ce qu'on appelle scientifiquement maintenant des maladies psychosomatiques, des choses qui sont terribles. Mener une vie moralement pure, mener une vie vertueuse, vous le pouvez, on le peut. Pourquoi? Parce que nous pouvons suivre les inspirations du Saint-Esprit. Nous avons le pouvoir de ne pas suivre les inspirations de l'ennemi, du péché, de notre corps qui veut ceci, qui veut cela, qui ah, Michel, une bonne fondue bien grasse, avec un bon Saint-Saf à 11h30 le soir. Ça me prend des fois des tentations comme ça. Pas vous? Eh ben ça, c'est détruire mon corps, parce qu'après, comment voulez-vous dormir avec ça? On ne peut pas dormir avec une bonne fondue bien grasse. On ne peut pas. Il faut être sage. Simone, elle est morte de rire. C'est vrai. On peut. Notre corps, il a des besoins, il demande, il veut des tas de trucs. Allez, un petit dernier avant la route. Non! Mais votre corps demande. Non! Je veux pas. Vous avez le pouvoir de dire non. Nous savons qu'il y a en nous sept puissances qui conduisent à l'égarement. Ça, c'était ma prédication de vendredi. Je ne vais pas vous la répéter. Si vous ne l'avez pas écoutée, allez l'écouter. C'est sur Révélation Bible. Mais nous savons aussi que nous avons une puissance, celle du Saint-Esprit, du Créateur, plus grande que toutes les autres puissances. Et le mot clé qu'il nous donne, le mot clé pour la victoire, c'est le mot discipline. Ça, on aime de moins en moins dans ce monde. Il y a encore, on pourrait dire que dans le sport, qu'il y a une discipline qui est observée, ou dans certains milieux scientifiques, parce que s'ils n'observent pas, ben, ils vont nous faire péter la planète. Et encore, le mot discipline, on peut comprendre aussi maîtrise de soi. Un disciple, en fait, c'est un élève. Et Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des élèves, des disciples. Comment? En leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Jésus veut que nous connaissions ce qu'il a prescrit. Beaucoup de chrétiens cherchent quelle est la volonté de Dieu. Premièrement, cherche tout ce que Jésus a prescrit. Lis ta Bible et lis-la bien. Lis et cherche qu'est-ce que Jésus a prescrit. Une fois que tu auras compris ce qu'il a dit, ce qu'il veut, les commandements, fais-les et tu t'assureras une bonne vie. Et Jésus promet, c'est la santé pour tes muscles et pour tes os. Pour tout. Pas seulement pour ton flap spirituel. On n'est pas que des flap spirituels. On a un corps. Et quand notre corps va pas bien, notre flap spirituel, il va pas bien non plus. Vous êtes d'accord avec moi? C'est difficile d'avoir la foi quand on est mal foutu. Je veux dire, quand on est mal foutu, pas beau, mais quand on est mal, quand on n'est pas bien, quoi, quand on souffre. Nous ne pouvons pas prétendre être des disciples de Jésus-Christ en observant seulement les traditions des églises et leurs dogmes. C'est faux. Nous avons un maître, c'est Jésus, qui a un but, lequel? Celui que nous devenions des maîtres nous-mêmes. Maîtres de qui? Maîtres de nous-mêmes. Jésus veut que nous devenions maîtres de nous-mêmes, la maîtrise de soi. Il est notre maître qui nous enseigne pour que nous en arrivions à être maîtres de nous-mêmes. Beaucoup de gens ont compris, Jésus nous enseigne pour que nous puissions devenir maîtres des autres. Non! C'est pas ça. C'est pour que nous devenions maîtres de nous-mêmes. Mais dans le cadre de son enseignement. Alors, il n'est jamais trop tard pour commencer. Si vous avez fauté, que vous sentez que le canal est coupé ou qu'il est bouché, que vous n'êtes plus en communion avec le Saint-Esprit, il n'est jamais trop tard pour recommencer encore, ou pour commencer. Jésus fait plus que de pardonner simplement nos péchés, c'est déjà beaucoup. Mais il efface aussi le sentiment de culpabilité. Il l'efface, c'est lui qui le fait. C'est pas à vous de prendre une éponge, puis de nettoyer ça, et puis de vous en débarrasser avec les psys et les machins, les trucs. Et les. Non, c'est Jésus qui va vous laver de ça. Ça va prendre un peu de temps, mais il le fait. Et les efforts dévastateurs que provoquent les sentiments de culpabilité vont disparaître, ça va disparaître. La culpabilité, ça, c'est une souffrance spirituelle qui occasionne des douleurs physiques. Moi, je savais pas. Et un jour, je dis à une dame que je connais, elle s'appelle Nelly Nibert. Je dis, mais j'ai mal à une épaule, je suis sûr que c'est parce que je suis mal positionné à mon ordinateur. Elle me dit non. Je dis, comment ça non? Elle me dit, non, c'est que tu as un problème avec ta mère. Je dis, mais comment tu sais ça? C'était juste le moment où ma mère était en fin de vie et c'était pour moi terrible. Et je me sentais pas bien dans ma peau parce qu'on avait dû l'hospitaliser, on pouvait plus la garder à la maison. C'était pour moi, je me sentais pas bien dans ma peau à cause de ça. Et ça s'est répercuté sur mon épaule. Et quand on a mal, je me rappelle plus si c'était l'épaule gauche ou l'épaule droite, vous voyez. Mais quand on a mal à cette épaule-là en particulier, c'est parce qu'on a un problème de culpabilité vis-à-vis de sa mère. Quand on a mal ailleurs, c'est un problème de culpabilité vis-à-vis de son père, ou vis-à-vis d'un collègue, ou vis-à-vis de ceci, ou vis-à-vis. C'est incroyable comme tout est lié. Incroyable comme tout est lié. Elle me dit, règle ce problème, ta douleur va disparaître. Alors je me suis mis dans mon bureau, je dis, Seigneur Jésus, c'est pas ma faute si ma maman est malade, c'est pas ma faute si elle est hospitalisée, je peux plus, on peut pas la soigner ici, elle a besoin, alors mon Dieu, je me décharge de cela devant toi. Merci Jésus. Amen. Je me suis relevé, j'ai bougé mon bras, j'avais plus mal à l'épaule et je n'ai plus jamais eu mal à l'épaule. Vous voyez? C'est curieux quand même. Tout est lié. Je mets au défi n'importe quel médecin de me dire le contraire. Donc, il efface nos péchés, il efface la culpabilité et il efface les effets dévastateurs que provoquent les sentiments de culpabilité qui sont des graves souffrances spirituelles qui atteignent notre corps. Débarrassez-vous de ça. Débarrassez-vous de ce sentiment de culpabilité. Comment? En vous repentant, en parlant à Jésus, en lui disant, voilà, j'ai fait ça. Mon Dieu, je crois que tu me pardonnes, Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Et puis si c'est nécessaire, repentez-vous encore. Et puis si c'est nécessaire, repentez-vous encore, et puis repentez-vous encore, et puis repentez-vous encore. L'ennemi finira par vous lâcher. Vous croyez ça?
Oui.
Amen. L'ennemi de votre âme finira par lâcher prise. Parce qu'il déteste les chrétiens sincères. Parce qu'il déteste ceux qui cherchent la sainteté. Vous savez, je vous parlais de l'odeur l'autre jour. Les odeurs du péché, ça pue. Mais les odeurs de la sainteté, c'est une horreur aux narines du diable. Il ne peut pas supporter cette odeur de sainteté. Il déteste ça. Alors il vous lâche. Le destructeur de votre corps et de votre âme fuira loin de vous. Vous savez, la vie, c'est une succession d'essais et d'erreurs. Alors, ajoutez le mot repentir à la liste des choses que vous devez faire. Ajoutez ce mot-là aussi. Vous voyez, ça en fait trois ce matin. Ça va vous apporter une paix durable. Une paix qu'on ne peut pas acheter avec les biens terrestres. On ne peut pas acheter la paix avec l'argent. On ne peut pas acheter la paix en « Ah ben, je vais me faire plaisir en m'achetant ce machin. » Voilà, puis une fois qu'on l'a, ben voilà, on l'a. Puis alors, ben on a toujours le problème. La paix, il n'y a que Jésus. Jésus dit « Je vous donne ma paix, je vous donne pas comme le monde donne. » Le monde, il vous donne pas, il vous vend. Puis en plus, ça dure pas longtemps. Avec Jésus, ça dure. Regardez, moi, ça fait depuis 68 que ça dure. Il y avait des gens qui disaient, oh, mais, en Suisse, cette joie qu'il a, là, cette paix c'est un feu de paille, ça durera pas. Ouais. Ben, Dieu a dû rajouter de la paille, parce que depuis 68, ça brûle toujours. Il y en a un Français qui m'avait dit, oh, mais toi, de toute façon, tu seras toujours qu'un jeune converti. Eh ben, oui, c'est vrai, je suis toujours un jeune converti. C'est-à-dire que j'arrive pas à me, je suis toujours comme un gamin, je me réjouis, j'arrive à m'enthousiasmer, et je suis content d'apprendre, et j'aime apprendre, et puis voilà, mais maintenant, même j'apprends l'hébreu. Depuis hier. Frères et sœurs, souvenez-vous de ça. Écoutez-moi bien, c'est très important. Écoutez bien cette phrase. Tous les êtres qui possèdent un corps, ont un pouvoir supérieur à ceux qui n'en ont pas. Répétez ça avec moi. Tous les êtres qui possèdent un corps ont un pouvoir supérieur à ceux qui n'en ont pas. Tous les êtres qui possèdent un corps ont un pouvoir supérieur à ceux qui n'en ont pas. Vous pouvez résister à la tentation. Vous pouvez résister aux mauvais esprits qui viennent vous tenter, qui rôdent autour de vous pour vous faire pécher. Vous pouvez leur résister. Vous êtes plus fort que les esprits. Beaucoup de gens pensent le contraire. C'est pas vrai, en Afrique, il y a beaucoup de gens qui pensent que les esprits sont plus forts. Non, 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 non. C'est nous les plus forts. Au nom du Seigneur Jésus, vous avez plus de pouvoir que les esprits. Frères et sœurs, vous n'êtes pas des gens ordinaires. Vous êtes des disciples de Jésus. Vous êtes des gens spéciaux. Vous êtes des gens exceptionnels. Comment est-ce que je sais que vous êtes des gens exceptionnels? Parce que dans chaque dispensation, des esprits sont venus s'incarner. Et dans notre dispensation, c'est vous qui avez choisi de venir vous incarner ici-bas sur cette terre. Et notre époque, notre dispensation, est l'époque la plus extraordinaire qui a jamais été sur cette terre. C'est la période la plus fabuleuse qui a jamais été sur cette terre. Il y a eu un autre moment très fort, c'est le moment où Jésus-Christ est mort à la croix. Et depuis, il s'est rien passé d'extraordinaire. Mais tout d'un coup, à partir du début du siècle passé, des choses ont bougé d'une façon fantastique. Et c'est vous qui avez choisi dans votre passé éternel de venir vivre là, maintenant, parce que vous êtes des esprits exceptionnels, parce que vous êtes des esprits doués d'une force, d'une intelligence, d'une capacité qui surpasse celle des gens du 12e ou du 3e siècle. Est-ce que vous croyez ça? Regardez nos gamins. Mais moi, je suis désolé, mais nous les adultes, là, à 12 ans, on était des benets par rapport à nos gamins de 12 ans d'aujourd'hui. C'est fantastique, la capacité qu'ils ont d'apprendre, mais c'est formidable. Il y a quelque chose qui se passe dans notre époque qui est fantastique. Vous êtes des gens exceptionnels et vous vivez dans la période de cette terre la plus importante. Alors, ne gaspillez pas le temps qui vous reste. Occupez-le. Tirez profit de la grande bénédiction que vous avez d'apprendre quoi? La saine doctrine de l'Église restaurée, d'apprendre pourquoi? D'apprendre pour pouvoir vivre une vie abondante, pour pouvoir vivre une vie libre de l'emprise du mal. La Bible dit la connaissance augmente. Et c'est la connaissance de la vérité qui vous rend libre, qui vous affranchit de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est médiocre. L'apprentissage de la vérité. Je suis la vérité, Jésus a dit. Apprenez de lui. Apprenons ce qui a le plus de valeur. Ne craignez pas l'avenir. Ne craignez pas l'avenir. Avancez avec foi, avancez avec espoir, n'oubliez pas le Saint-Esprit qui est avec vous, laissez-vous instruire par lui, faites silence, écoutez son doux murmure, apprenez à l'écouter, apprenez à conformer votre vie à ce qu'il vous dit, à ce qu'il vous enseigne, par les prédications, par les lectures, par les conversations que vous avez avec d'autres frères, d'autres sœurs. Et je demande de tout mon cœur à Dieu de vous rendre et de vous accorder la bénédiction qui découle d'une vie qui se consacre au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus pour ce message et veuille permettre que chacun et chacune se saisisse sérieusement de ces choses et dise voilà maintenant je décide, je veux changer, je veux balayer, oublier tout ce qui me détruit et je veux marcher avec la vie. Je veux marcher avec ce qui est bon, ce qui est louable, ce qui est honorable, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est beau et ce qui va de l'avant avec Jésus. Amen. Amen.